Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'enregistre un épisode un peu particulier. C'est un épisode bilan, en quelque sorte, de la série de mini-interviews que j'ai fait ces derniers jours, des 8 interviews avec 8 photographes. Bon, je dis une série de mini-interviews, mais en réalité, il y a certaines interviews qui duraient plus de 45 minutes, donc c'était pas forcément que mini. Mais du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir faire un épisode complet, où je puisse répondre à mon tour aux questions que j'ai posées aux 8 mentors et de donner aussi ma vision et faire une forme de bilan aussi par rapport à tout ce qui avait été dit, par rapport à ce que les mentors ont projeté pour la suite de l'avenir de la photographie. J'ai déjà enregistré cet épisode ce matin, mais j'ai eu un problème de son, donc je le réenregistre. Donc excuse-moi si tu entends quelques bruits d'enfants en fond, parce que du coup, ben voilà, j'ai récupéré les enfants à l'école, à la crèche, au collège, et c'est possible du coup qu'il y ait quelques interférences par-ci par-là.
Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grao Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute.
Alors, avant de commencer, je voulais vraiment remercier les 8 mentors, les 8 photographes qui sont intervenus. Parce que je trouve que leur partage était plein de sens, était riche, était généreux. Il y avait vraiment de quoi réfléchir. En tout cas, moi, de réaliser les interviews, ça m'a fait réfléchir. Et du coup, je les remercie parce que, ben voilà, ils ont donné de leur temps, donc c'est quelque chose de chouette. Et je te le répète dans cet épisode, mais ils interviendront lors du Winter Club qui arrive la semaine prochaine, lundi prochain. Donc, si t'as envie de poursuivre ces échanges avec eux, si t'as envie de creuser certaines problématiques, certaines choses qu'ils ont abordées, ben n'hésite pas à aller voir dans la description le programme, enfin la liste d'attente en tout cas, pour avoir le programme en avant-première. Et sinon, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour avoir les infos au moment venu. Donc à mon tour de répondre à ces 3 questions, c'est pas quelque chose qui est évident du coup, surtout que je suis seul à me les poser, donc c'est un peu bizarre. Pour commencer, je leur posais à chacun la question suivante qui était: quelles sont les 3 choses qui ont eu le plus d'impact depuis que tu t'es lancé? Alors je sais que c'est une question qui est pas évidente, toutes les personnes que j'ai interviewées n'ont pas forcément réussi à trouver 3 choses, et même si elles avaient eu les questions en amont, n'ont pas forcément trouver de la clarté là-dedans, parce que je crois que dans une activité, c'est difficile de trouver 3 choses, surtout qu'on est lancé depuis 5, 10, 15 ans pour certains, uniques, qui ont permis d'avoir un impact. Souvent, l'impact, c'est Sarah qui disait ça, c'est une succession de plusieurs petites choses qui font que, en fin de compte, on a des résultats. Pour ma part, du coup, la première chose qui a eu un vrai impact, je trouve, ça a été un vrai choix, une vraie décision, c'est quand j'ai décidé de me concentrer pendant à peu près un an à 100% sur le mariage. Alors, 100%, j'exagère, peut-être que j'étais à 90%, mais en tout cas, il y a eu un moment où j'avais testé plein de choses en photographie et je me suis dit: arrête de déconner, arrête de partir dans tous les sens, arrête de tester un truc le matin, tester un autre truc l'après-midi et de dilapider du coup ton temps, ton énergie et tout ça dans tous les sens. Concentre-toi sur ce qui t'attire le plus et ce qui a, mon point de vue, c'était ce que je me disais à l'époque, le plus d'impact potentiel. J'ai choisi le mariage parce que le mariage, j'adorais ça pour le reportage, pour tout ce que ça pouvait créer. Et surtout, je voulais sortir de... Je fais des mariages à l'époque, j'étais entre 1500 et 2000 euros, je pense à peu près. Je voulais vraiment me démarquer et sortir de ce panier un peu mou, de ce milieu de gamme. Et pour ça, je crois que C'est ce que j'ai fait, toi, ce que je me suis dit. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'être vraiment focus pour pouvoir développer l'expérience, la stratégie, la communication, des marchés aussi, des partenaires pour créer du réseau et tout ça. Donc vraiment, moi, ce qui a eu un impact assez dingue et ce qui m'a permis après de faire mon plus gros chiffre d'affaires l'année suivante, c'est vraiment ça, c'est vraiment de me dire, ok, je me concentre sur une chose, le mariage, je développe à fond. Ça ne m'empêchait pas de réaliser quelques séances famille à droite à gauche. J'ai toujours fait du corpo aussi et tout ça. Je ne cherchais pas à le développer en particulier. Et mon focus était vraiment là-dessus. J'ai créé mon packaging sur le mariage en m'associant à une créatrice de coffrets. J'ai vraiment développé tout un tas de choses et ça, ça a été vraiment quelque chose d'impactant qui a changé mon activité de photographe. La deuxième chose qui a vraiment transformé mon activité, qui est arrivée avant ça en réalité, c'est le fait de me former et de partager avec d'autres photographes. J'étais un peu, j'avais un peu d'ego, tu vois, au début quand je me suis lancé en 2012, en me disant, enfin, j'ai commencé en 2011 et puis je me suis lancé à fond, je me suis déclaré en 2012. J'avais un peu d'ego en mode, bon, je suis autodidacte, ça fait bien d'être autodidacte, tu vois, c'est un peu ce truc-là de, bah, si tu fais ton truc tout seul dans ton coin, t'es plus méritant, voilà, t'as toutes ces croyances qu'on peut avoir. Et ce qui se passe, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à tester des choses. Donc on peut le voir, enfin je le vois pas de manière très négative parce que du coup ça m'a permis d'essayer des choses. Par contre, à un moment, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, il y a des personnes, des photographes qui font ça depuis des années, qui ont réfléchi à des problématiques auxquelles je me poserai peut-être dans 2-3 ans, pourquoi je vais pas aller les voir pour que ça aille beaucoup plus vite. Et du coup, le fait de commencer à me former, de participer à des workshops, des formations, de partager aussi avec mon réseau de photographes que je me faisais, ça a été un gain énorme dans mon activité parce que j'ai pu vraiment connecter avec des problématiques, soit que j'avais auxquelles j'avais pas de réponse, donc ça c'est énorme, soit des problématiques que j'avais pas encore et que j'allais vivre sur la tarification, sur la structure de ces offres, parce que parfois tu te poses pas de questions parce que t'avances, et en fait quand quelqu'un lors d'une formation te dit « Ah, j'ai testé ça, c'est trop bien, je vends 30% plus cher mes offres », ben forcément tu aurais pas pensé par toi-même, ça te titille un petit peu et du coup tu as envie d'essayer. Donc ça a été vraiment quelque chose de fondamental, les rencontres que j'ai pu faire pendant le début de mon activité. Et la troisième chose qui a eu le plus d'impact, c'est le fait d'écrire des articles de blog. Ça a eu de l'impact parce qu'encore aujourd'hui, alors que ça fait 3 ans que je communique plus sur le mariage, 2 ans que j'ai arrêté le mariage, j'ai encore des demandes tous les mois. Donc j'en ai de moins en moins, mais ce qui est assez ouf, c'est que des articles qui sont bien référencés, et puis comme j'avais développé ça aussi, j'étais référencé sur d'autres sites et tout ça, font qu'aujourd'hui, j'ai encore des demandes pour une activité que je propose plus, pour un service que je propose plus. Et je trouve que c'est assez dingue parce que parfois, dans les opérations de com, on réfléchit à l'immédiateté pour avoir de la visibilité tout de suite, alors que les articles, moi ça a été vraiment quelque chose d'impactant dans mon business depuis que je me suis lancé, encore aujourd'hui, parce que ça m'a permis d'avoir à un instant T de créer du contenu qui me permet encore aujourd'hui pour d'autres types de séances du coup de pouvoir les vendre et de pouvoir encore avoir des clients réguliers par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment important et si je te partage ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que tu peux vraiment aussi te poser la question de où je mets mon énergie et une action n'a pas la même valeur qu'une autre action. Et du coup, peut-être que ça vaut le coup de choisir des actions qui ont une forte valeur ajoutée, en tout cas des actions qui amènent des résultats. Pour la deuxième question que je posais à mes invités, elle était la suivante. Quelle stratégie conseillerais-tu à un ou une photographe qui veut développer donc son activité? C'est une question qui est pas évidente parce que du coup on réfléchit pas forcément en termes de stratégie, on a quelques idées, donc il y a pas mal de trucs qui sont ressortis quand même dans les interviews croisées, donc ça c'est chouette sur la visibilité, sur le positionnement, sur tout ça. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, comme c'est quand même un épisode bilan, c'est que j'ai essayé de synthétiser tout ça par rapport à mon expérience, à ce que j'ai appris, à ce qui a pu être dit, pour essayer de te donner un petit plan en 5 étapes pour justement arriver à mettre en place une stratégie qui soit efficace pour la suite. Donc la première chose que je te conseillerais, si tu veux vraiment mettre en place une stratégie, c'est de choisir une cible. De choisir une cible qui soit suffisamment claire, souvent identifiable. Donc définis par exemple si tu veux faire du mariage, comme je l'ai fait, de te dire « Ok, je veux faire du mariage » et si tu peux un peu plus précisément savoir qui sont tes mariés, ce sera plus bénéfique pour toi plutôt que juste te dire « Je veux faire du mariage » où c'est assez vaste. Il prévoit pour 2023 300 000 mariages, donc bon, ça fait de la marge. Mais peut-être te préciser un petit peu, est-ce que tu veux faire des mariages dans des salles des fêtes, dans des domaines? Est-ce que le lieu a pas d'importance? Est-ce que tu veux faire du mariage de destination? Des choses comme ça, pour avoir une cible qui soit assez claire et comprendre aussi quels sont les besoins. Les personnes que tu vas photographier, est-ce que c'est des personnes qui ont juste besoin de souvenirs naturels? Est-ce que c'est des personnes pour qui le lien est très fort? Est-ce que c'est des personnes pour qui tu seras un simple prestataire et qui veulent juste des moments un petit peu pris de l'extérieur? Est-ce qu'ils ont besoin que tu sois connecté, que tu fasses partie de la famille? Donc ça, c'est important parce que ça va te permettre à la suite de développer ta communication et tout ça. Donc premier point dans cette stratégie, choisir une cible qui soit identifiable, qui soit claire. Le second point, de mon point de vue, qui en découle, qui est lié, c'est de définir une offre qui soit spécifique et qui répond aux principaux besoins de ta cible. Ça, c'est fondamental parce que souvent, on développe une offre, on se dit bah, « j'aimerais bien proposer ça, ok, bah, ma séance elle va durer 2 heures, ou mon mariage, j'ai pas envie de faire la soirée parce que je suis pas très bon pour les photos de soirée, donc je vais juste proposer jusqu'à 20h, machin. » Et en fait, le problème de ça, c'est que du coup, tu peux passer à côté de plein de contrats, parce que si tu as des mariés pour qui la soirée c'est important, ou pour qui certains moments sont importants, ou c'est valable pour le mariage, c'est valable pour n'importe quel type de séance, tu vois. Si par exemple dans tes séances, tu as une offre que t'as définie toi, qui n'est pas en lien avec le vrai besoin, tu peux passer à côté de ce besoin-là, de la réponse à ce besoin en tout cas. Ça peut avoir un impact énorme parce que les personnes, si elles comprennent que tu vas pouvoir les aider dans leur problématique, elles seront prêtes à investir plus, à t'accorder plus de confiance, à revenir aussi vers toi par la suite. Et il y a vraiment un côté assez vertueux à tout ça. Donc, la cible, l'offre, c'est vraiment les deux piliers qui sont fondamentaux. Et ensuite, la troisième chose, c'est te poser la question de comment tu peux te rendre visible auprès de cette cible en proposant ton offre. Et là, pour ça, il y a trois aspects qui sont à prendre en compte, qui sont importants. Le premier, c'est l'aspect court terme. Moi, quand je me suis lancé, par exemple, dans la photo, j'avais cette philosophie de me dire comment je peux signer rapidement, parce que du coup, j'avais pas de chômage et j'avais besoin de signer, de faire rentrer l'argent rapidement. Donc ça, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont activables à plus court terme? Je te parlais, par exemple, dans les trois choses qui ont eu de l'impact de la stratégie sur les articles de blog, ça, c'est plutôt une stratégie à moyen ou long terme. Donc, est-ce que tu as moyen de te rendre visible à court terme, à moyen terme et à long terme? Et là, je t'invite vraiment à te poser, à réfléchir à la stratégie qui va être la plus adaptée, la plus bénéfique pour répondre à ces problématiques-là. Si tu as du temps devant toi, si tu es en reconversion ou que tu es lancé, que tu as encore le chômage et tout ça, du coup, tu peux te dire, je mise sur le moyen et le long terme et du coup, tu as la souplesse de faire ça. Par contre, ça vaut le coup de te poser la question à court terme parce que moi, je trouve que c'est assez engageant pour la confiance en soi, pour tout ça, de pouvoir avoir des résultats rapides. Et du coup, qui dit résultats rapides, dit signer des séances rapidement, avoir un boost de se dire c'est trop bien parce que ça marche, parce que j'ai des clients qui viennent et tout ça, et du coup avoir envie de développer ça de manière plus poussée et ensuite de prendre le temps parce que t'as l'énergie pour le faire, la confiance comme j'ai dit, t'as aussi le revenu qui est supérieur pour le développer tranquillement ou voir carrément déléguer des choses. Donc ça c'est vraiment important de réfléchir à cette stratégie de visibilité à court, moyen et long terme. Ensuite, et seulement ça vient en quatrième position, une fois que t'as ta cible, ton offre et que tu commences à vendre parce que t'es visible, du coup il vient la partie de te créer une véritable identité. Et je le mets pas au début parce que parfois on fait l'erreur au tout début de chercher un joli logo, alors on va passer des heures à le faire ou éventuellement on peut faire appel à un graphiste, des choses comme ça. Je pense que c'est absolument pas important, en tout cas pas indispensable dès le début, parce que parfois si on sait pas à qui on s'adresse, si on n'a pas d'offre, si on n'a pas vendu, finalement l'identité c'est un truc qui va peut-être pas correspondre vraiment à qui tu es vraiment, parce que tu vas évoluer avec le temps et aussi aux besoins de ta cible. Donc tout ce qui est personal branding, je pense que c'est fondamental, c'est ce qui permet de se différencier aujourd'hui, mais je le mets après parce que pour moi c'est vraiment le fait d'avoir commencé avant, le fait de comprendre comment les choses se passent et le fait d'affiner son message qui va nous permettre de comprendre comment on met en avant ses valeurs, comment on les communique, comment on les rend sexy, comment on met en avant le besoin de sa cible grâce peut-être à des connexions qu'on peut faire avec sa vie ou avec d'autres clients, comment on adapte aussi notre communication, tout l'aspect visuel par exemple, logo, si on a des photos, une démarche qui est plutôt peps, on va avoir des couleurs qui sont peut-être plus chaudes que des couleurs froides, des choses comme ça qui sont hyper importantes dans l'identité et à mon sens qui viennent après, c'est pas le principal dans le développement, dans la stratégie. Par contre, c'est quand même important parce que ça peut faire une différence importante, je dis beaucoup de fois important, à un moment. Et le dernier point, le cinquième point, c'est le fait de prendre du recul Et je trouve que c'est quand même très important, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Prendre du recul sur sa stratégie, prendre du recul sur ce qu'on met en place, sur ce qu'on ne fait pas aussi, sur ce que font d'autres collègues ou, voilà, ou des idées qu'on peut prendre d'ailleurs ailleurs que dans la photographie pour pouvoir apporter des améliorations, éventuellement supprimer des choses qu'on fait qui ne fonctionnent pas et pouvoir réitérer. Ça, c'est extrêmement important parce que parfois, on peut... je disais tout à l'heure que deux actions n'ont pas nécessairement la même valeur et le même impact. Et parfois, on peut passer des semaines, des mois, voire des années, en fait, à créer quelque chose qui apporte pas de résultat. Et pour moi, le seul moyen de savoir si c'est juste et si ça fonctionne, c'est de prendre du recul, de chiffrer un petit peu les choses pour analyser est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et après, éventuellement, de pouvoir transformer ou de se former aussi, pourquoi pas, pour développer tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ces 5 points. S'il y avait une stratégie à conseiller de manière assez simple, assez basique, à un photographe qui veut développer son activité, c'est vraiment ça que je conseillerais, de se focusser là-dessus. Et si tu es déjà lancé depuis un moment, je t'invite vraiment à faire l'exercice de te poser la question: quelle est ma cible, quelle est mon offre, est-ce qu'elle répond aux besoins, comment je peux communiquer, comment je peux me rendre visible et comment je peux approfondir ça, pour réellement créer une identité autour de ça et prendre ce recul, parce que c'est pas parce qu'on est lancé depuis longtemps que tous ces conseils sont pas bénéfiques, parce que souvent, ça c'est de la structure, hein, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas fait ou très peu faites dans son activité. Et du coup, en parlant de stratégie, j'organise une masterclass la semaine prochaine, enfin plusieurs, il y a plusieurs dates, c'est la même que je vais délivrer plusieurs fois. Donc si tu veux aller t'inscrire, tu peux aller dans la description de l'épisode du podcast ou sur Instagram, tu verras l'info, et je vais te partager vraiment la stratégie très poussée en 6 étapes pour vivre durablement de la photo et pour en faire quelque chose, un socle fondamental qui va te permettre d'être beaucoup plus serein aussi, d'avoir des bonnes bases. Parce que souvent, ce qui manque, je trouve, c'est les bases, c'est vraiment ce socle-là pour ensuite le développer. Et soit on va se perdre, on va partir dans tous les sens, on ne sait pas quelle action est prioritaire, laquelle est à mettre avant une autre, on a du mal à s'organiser, on manque de vision, enfin, ça découle sur tout un tas de choses, et j'ai vraiment envie de te partager, pour moi, les clés pour arriver justement à vivre de la photo de manière saine et sereine. Et pour ma troisième et dernière question que je posais à tous mes invités, qui est la question, je crois, la question la plus difficile, allons-y, qui était: comment vois-tu l'évolution du marché de la photographie pour les prochaines années ? C'est pas évident parce que on n'est pas devin. Alors peut-être qu'il y a certains invités dans les interviews qui l'étaient, mais du coup, c'était vraiment une question importante parce que je pense que quand on reste un petit peu sur ses acquis, c'est là où on a tendance à stagner et éventuellement à se laisser dépasser et à mourir. Alors c'est un peu fort le terme, mais en tout cas à faire que son activité marche de moins en moins. Et pour contrer ça, je pense que le meilleur moyen, c'est toujours de se projeter de c'est quoi les futures tendances, où va le marché, comment les personnes, les clients vont consommer demain, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à émerger aujourd'hui qu'on pourrait développer, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on devrait arrêter. Et je pense que c'est des questions à se poser régulièrement, alors pas tous les jours, tu vois. Mais je pense que ça vaut le coup, c'est une vraie valeur de se les poser continuellement, peut-être tous les 6 mois, enfin je sais pas, il n'y a pas de date, tu vois, mais plusieurs fois par an en tout cas, pour vraiment réadapter son activité, continuer à garder la motivation et continuer à coller aux besoins du marché, parce que je le répète encore une fois, je le dis souvent dans le podcast, le besoin, identifier le besoin et y répondre, c'est la base du commerce. Donc j'ai relevé plusieurs choses que je veux te partager. La première, pour moi, c'est que le métier se professionnalise de manière assez importante et que ça a comme conséquence qu'on a moins de marge de manœuvre. Quand je me suis lancé en 2012, je faisais des photos correctes, je les partageais sur Facebook, je signais des contrats. Donc c'était un peu le voilà le milieu rêvé, on va dire. Ça a changé parce que du coup le niveau augmente, les personnes aujourd'hui qui se lancent ont un niveau plus important parce qu'il y a un accès à la formation qui est beaucoup plus important, il y a un accès à l'image qui est beaucoup plus important, donc on peut aiguiser son œil, il y a tout un tas de choses qui fait que c'est plus important, et ça c'est indispensable, je crois qu'on peut plus passer à côté aujourd'hui de l'aspect se professionnaliser, donc se former, parce que autant à l'époque on pouvait tâtonner un petit peu, aujourd'hui si on tâtonne, on risque, de mon point de vue, et puis de plus en plus dans la venir dans les années qui viennent, de finir un peu à la trappe et d'être un peu le photographe un peu inconnu au bataillon, quoi. Alors se professionnaliser, c'est structurer son business, c'est comprendre quels sont les leviers de croissance, comprendre quels sont les leviers de communication, quels sont les moyens d'avoir de l'extérieur une image professionnelle, et même ça peut paraître un petit peu surfait, c'est quelque chose d'important, parce que du coup, quand on a quelque chose qui paraît pro, ben ça prête confiance finalement pour nos prospects et puis pour nos clients, et du coup ça donne envie d'acheter, et c'est un vrai élément de différenciation. Donc je vois vraiment le métier qui se professionnalise, où on pourra plus faire les choses dans son coin. La deuxième chose, je crois qu'il va falloir faire un vrai choix quand on est photographe aujourd'hui, et se dire, est-ce que, je ne crois pas que ça a été abordé ce point dans les échanges, dans les interviews, mais est-ce que je décide de faire de la masse, donc c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais est-ce que je décide d'avoir beaucoup de clients avec des tarifs accessibles, qui est un choix de stratégique possible, donc ça veut dire passer moins de temps avec ses clients, passer moins de temps dans la retouche, passer moins de temps dans toute l'expérience, et du coup, au lieu de faire une séance dans la journée, par exemple, ou je sais pas, au lieu de faire trois séances dans la semaine, bah, peut-être ce sera en faire le double ou le triple, faire une dizaine de séances avec peut-être une séance le matin, une séance l'après-midi, des choses comme ça. C'est un positionnement qui est pas forcément un positionnement qui... C'est d'ailleurs pas un positionnement qui prend plus de temps, parce qu'on prend moins de temps, parce qu'on va peut-être avoir un studio, et du coup la lumière est maîtrisée, ou on va faire les choses dans un home studio où on maîtrise la lumière, le post-traitement, tout ça, mais comment on peut optimiser pour jouer sur le nombre de séances avec un prix qui est plus attractif, plus accessible, et du coup faire des gros paniers. Moi je connais des photographes qui font 5-6 000 euros par mois en faisant des séances d'une heure par exemple, et il y en a beaucoup, et du coup c'est quelque chose qui marche bien. Donc c'est un vrai positionnement à avoir, c'est une vraie question à se poser. Ou à l'opposé, de choisir un positionnement, on pourrait appeler peut-être un peu plus haut de gamme, alors ça veut tout et rien dire plus haut de gamme, mais en tout cas un positionnement où on va privilégier l'expérience, le temps passé avec son client, on va privilégier peut-être la qualité des supports ou le nombre de supports, des choses comme ça, en tout cas autour vraiment de l'expérience, du service, pour pouvoir toucher des personnes qui sont prêtes à investir un budget qui est beaucoup plus important, et du coup nous permettre de faire moins de séances, mais avec une valeur plus élevée. Et je pense que dans l'avenir, il faudra vraiment choisir entre les deux, c'est-à-dire être entre deux dans le ventre mou, en faisant à la fois une expérience qui est chouette, mais un tarif plus haut que le panier, ou à l'inverse, c'est un truc qui ne marchera pas, il faudra vraiment être positionné sur une tranche ou sur l'autre si on veut se démarquer, si on veut que son activité marche. Donc c'est mon point de vue, mais je vois vraiment ça dans l'avenir. Ensuite, le troisième point, c'est l'importance, je pense, de miser sur la personnalisation et l'accompagnement pour permettre à nos clients de vivre une véritable expérience. C'est-à-dire que ça sous-entend de choisir un positionnement qui est plutôt haut de gamme, et ou alors d'avoir quelque chose d'accessible, mais en pensant toujours expérience client, et de vraiment se dire comment on peut personnaliser le plus possible, au maximum, l'expérience que je propose, comment je peux accompagner peut-être mes clients pour me démarquer. Et ça, c'est un élément qui est assez important, c'est que je pense que le métier de la photographie devient pluridisciplinaire. Agnès, dans son interview, elle le disait, un graphiste, quelqu'un dans la com demain, il faudra qu'il fasse des photos. Et de la même manière, je pense qu'un photographe, ça suffira plus de faire juste des belles photos. Il faudra qu'il cherche à faire vivre une belle expérience, il faudra peut-être qu'il cherche à proposer autre chose, peut-être un accompagnement. Je pense à un photographe qui veut se spécialiser dans... je sais pas, des photos de branding pour des créateurs, par exemple, pour des entreprises, peut-être que ça vaudra le coup de mettre des compétences au-delà de la photo, dans la balance, dans son offre, qui est par exemple un accompagnement pour la communication, qui est peut-être, je sais pas, l'accompagnement pour la mise en valeur de ses lumières, peut-être la création de sites internet, de choses comme ça. Mais en tout cas, je pense que le côté personnalisation, accompagnement, va être quelque chose qui va de plus en plus se développer pour encore une fois sortir du lot, se démarquer, parce que la réalité, c'est que plus le temps passe et les gens aiment l'image et plus il y a de photographes sur le marché, et du coup, qui dit plus de photographes dit aussi comment on se démarque, pour arriver à sortir du lot et faire en sorte que nos prospects potentiels, nos futurs clients, nous découvrent et ont envie de bosser avec nous parce qu'on a un élément différenciant. Et du coup, c'est lié un petit peu. Le quatrième point, c'est le fait de trouver son unicité et l'utiliser à fond pour se différencier. Et pour moi, on ne pourra plus y couper, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus venir faire trois photos et se barrer, à moins de faire peut-être du pack shot avec des clients qui nous prennent juste pour l'aspect purement technique. Mais au-delà de ça, pour la photo sociale en tout cas, je pense que le fait de mettre en lumière son pourquoi, le fait de le communiquer, le fait de connecter avec ses clients, de discuter avec eux en amont, pendant, le fait de créer vraiment autour de ce personal branding et autour de tout notre écosystème d'offres, si on en a plusieurs, quelque chose qui permette à nos prospects de se dire, ok, en fait, cette personne, cette photographe ou ce photographe, il a ce truc-là qui me parle profondément, ce truc-là que j'ai envie de vivre et j'ai envie d'y aller. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je te disais sur l'accompagnement. Peut-être il y a des photographes, par exemple, je sais que Ils font du tarot et du coup ils proposent des séances avec des séances de prise de vue avec un petit accompagnement à côté, mais vraiment de pouvoir se dire qu'est-ce que c'est qui me rend unique, est-ce que j'ai des compétences, est-ce que j'ai des spécificités que je peux mettre au service de mon activité pour créer quelque chose qui soit différent, encore une fois, et qui me permette de me démarquer. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et le dernier point, c'est un point qui a été soulevé par Julien, et je pense que c'est un point qui va être un énorme game changer, c'est les intelligences artificielles qui arrivent, et notamment celles qui permettent et qui sont en place déjà aujourd'hui, qui fonctionnent de l'aide au post-traitement. Et ça, je pense que ça va être ouf, parce que du coup, moi je me suis toujours dit qu'un photographe avait assez peu de valeur à post-traiter ses images, dans le sens où oui, on peut avoir sa patte, on peut avoir son grain, on peut faire quelque chose. Mais en réalité, passer peut-être 20-30% pour certains, c'est, le temps est énorme. J'entends des photographes parfois qui mettent 2-3 jours à post-traiter une séance. Du coup, il n'y a aucune valeur à passer 2-3 jours sur une séance photo, alors qu'une intelligence artificielle va pouvoir le faire en 10 minutes. La valeur, elle est dans le fait de connecter avec ses clients, d'aller prendre des photos. Et surtout, le fait de prendre des photos, c'est ce qui génère de l'argent, ce qui génère du chiffre d'affaires. Et du coup, on peut le voir de manière négative en se disant, là, on va peut-être se laisser dépasser, des intelligences artificielles qui vont nous supplanter. Moi, je le vois vraiment comme la possibilité de se concentrer là où on apporte le plus de valeur, là où on est le ou la meilleure, et se concentrer sur vraiment ce qui nous permet de rapporter de l'argent à notre entreprise, et au-delà de l'aspect financier qui est important pour une entreprise, mais là où on kiffe vraiment. Et alors, si tu kiffes le post-traitement, bah, c'est une chose, mais j'en connais peu des photographes qui kiffent le post-traitement. Je pense qu'a priori, on préfère plutôt être à une séance et shooter et balancer nos photos en ligne et les récupérer 10 minutes après que de passer plusieurs heures ou plusieurs jours sur un post-traitement. Voilà, je pourrais continuer pendant un moment parce que tous ces questionnements m'ont soulevé énormément d'idées, mais j'ai voulu synthétiser pour que tu aies un épisode assez digeste et que tu puisses vraiment non pas être submergé d'informations, mais que tu puisses te dire, ok, l'expérience, la professionnalisation, le fait de choisir aussi son positionnement de manière claire, et pourquoi pas d'utiliser les intelligences artificielles avec la contrepartie, c'est de pouvoir faire ce que t'aimes, te concentrer là-dessus en mettant en avant ta différenciation, ton unicité. Je pense que c'est une bonne optique pour les années à venir. Je conclurai cet épisode en disant que j'étais très 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 heureux de réaliser cette interview croisée. Je vais poursuivre les interviews dans le podcast à partir de novembre. J'en avais fait assez peu parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je t'avoue que je suis un peu lessivé d'avoir fait ces 8 interviews en une semaine, en 8 jours. Mais du coup, c'est passionnant. Donc, je vais poursuivre sur cette lancée, sans oublier les épisodes en solo. Et en attendant, du coup, comme toujours, si tu veux me suivre, tu peux venir sur mon compte Instagram. Je te répète que je lance le Winter Club, du coup, la semaine prochaine. On démarre le 24, le lancement, et le Winter Club démarre en novembre. Donc si tu veux nous rejoindre, je te mets la liste d'attente en description, et tu peux t'inscrire aussi dès aujourd'hui à la masterclass sur les 6 stratégies pour vivre durablement de la photographie. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un prochain épisode du podcast.
Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @jeremyguillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode, et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.